allez bien? Voilà, c'est le temps des vœux, des remerciements. Je suis content de remercier aussi tous ceux qui travaillent aussi et qui permettent que la formation biblique ait lieu, qui se donne. Il y a aussi, là aussi, il y a de l'intendance avec Brigitte, Jean-Marie, Yvette, Katia. Il y en a d'autres qui participent aussi des fois, Denis, Greff, et puis ceux qui permettent que l'outil informatique fonctionne, etc. Voilà, tout se fait dans l'Église grâce à l'action de chacun. Personne ne pourrait mener à bien quoi que ce soit. On a tous besoin les uns des autres. Hein. Et s'il y en a quelques-uns qui souffrent de ne pas être, de se sentir un peu sous-exploités, alors écoutez, on peut vous arranger ça. Hein. Venez voir, on va vous aider, on va vous trouver quelque chose. Après, vous direz que vous en aurez trop, mais on peut rééquilibrer après. Voilà. Est-ce que vous lisez la Bible, quelques-uns? Vous savez, un vieux livre qui a de la poussière dessus, hein? Non? S'il y a beaucoup de poussière sur la couverture, c'est pas bon signe, hein? Il y a des vieilles Bibles, des jeunes Bibles, bon. Il y a quelque temps, je relisais dans les Proverbes, et puis vous savez, il y a un passage qui parle de, qui dit, de mémoire, fais ta joie de l'épouse de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, etc. Vous connaissez ce passage, hein, Proverbe 5, quelque chose comme ça. Et je lisais dans une Bible, une version du 10e siècle, hein, et alors gazelle pleine de grâce, c'était chevrette gracieuse. Hein. Alors c'était juste, je lisais quelques versets avant de dormir, j'ai dit à Brigitte, ben maintenant je t'appellerai chevrette gracieuse, qu'est-ce que tu penses? Oui, hein? Bon, donc vous voyez, il y a des choses qui changent avec la culture, mais le fondement de la parole de Dieu ne change pas. Hein? Des fois les mots, c'est normal, les mots changent, la sémantique évolue, bon ok, d'accord, des questions de philologie, on peut étudier tout ça, mais le fond ne change pas parce que Dieu ne change pas. Parce que la vérité n'est pas élastique, parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas à s'adapter à la parole de Dieu, au sens comme si le monde devait changer le contenu. Le contenu ne change pas. Maintenant, dans la forme de notre vie, c'est évident qu'il y a des choses, qui changent parce que on vit pas de la même façon, parce qu'on s'habille pas pareil, parce que on travaille pas de la même façon, parce que les familles ne sont pas constituées pareil, parce qu'une société rurale ou agricole ou industrielle, bien, ce sont des sociétés différentes. Voilà, pour des tas de choses. Donc, on n'est pas en train d'adapter, de changer la parole de Dieu. Mais on est en train de se dire à tout moment comment la parole de Dieu est réelle, efficace dans notre monde, dans notre société. Nier qu'il y ait une culture, ce serait dommage, parce que la culture, j'en parlais encore cet après-midi avec quelqu'un, mais nier qu'il y ait une culture, ce serait dommage. La culture change, elle évolue. J'ai vu personne ce soir arriver habillé comme était habillé Jésus en son temps. Vous voyez, on a quand même un petit peu changé. C'est pas mieux, hein, mais c'est seulement un peu différent. Mais c'est pourquoi ce que nous dit la Bible est toujours d'actualité. J'aimerais parler ce soir un peu de Abraham. Vous connaissez Abraham? Ben oui, bien sûr, hein, on l'a tous bien connu. Et alors, dans la Bible, quoi. Et donc, j'aimerais parler d'Abraham parce que le Nouveau Testament en parle. Hein, il faut qu'on soit bien clair, la Bible est un livre d'ensemble. On n'a pas un contenu dans l'Ancien Testament et puis un contenu différent dans le Nouveau. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau, et le Dieu, le papa de Jésus, eh bien, c'est aussi le Dieu d'Abraham, c'est le même, il n'a pas changé. Et Jésus a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par exemple, alors pour préciser ça, donc vous avez l'importance d'Abraham dans la Bible, c'est un des personnages qui nous est le plus connu, c'est un de ceux qui est le plus raconté. Toute la vie d'Abraham commence en Genèse au chapitre 11 et va jusqu'au chapitre 25. Et c'est un de ceux qui est le mieux décrit. Dans le Nouveau Testament, on cite Abraham au moins une trentaine de fois et à propos de choses différentes. Et si on comptait toutes les fois où le mot Abraham est écrit dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus encore que ça. Donc c'est pour montrer l'intérêt qu'il y a à savoir qui est Abraham, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a de spécial, quel exemple il est pour nous. Perdre ces exemples, ce serait dommage parce que Dieu nous les a donnés pour ça. Alors, par exemple, dans Matthieu 22, on peut lire juste Matthieu 22, 31, 32. Voilà, pour ce qui est, Jésus parlait de la résurrection des morts, que certaines personnes en son temps niaient l'existence même, le principe même de la résurrection. Il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Et autant de les contemporains de Jésus connaissaient tous ce verset parce que qui remonte à l'histoire du buisson ardent, pardon. Et donc tout le monde le savait, tout le monde connaissait, mais personne ne l'avait lu comme Jésus ce jour-là l'a cité. Tout d'un coup, Jésus dit, mais attendez, si Dieu dit je suis Dieu d'Abraham, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu veut dire qu'il est Dieu spécialement des morts? Si Abraham, Isaac et Jacob sont morts et enterrés et puis c'est fini, il n'en reste rien. Donc Dieu est en train de se révéler comme étant le Dieu d'entité qui n'existe plus. Alors, quelle définition de Dieu on a? Non, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Donc, d'une certaine façon, Abraham, Isaac et Jacob étaient vivants. Je dis d'une certaine façon parce que c'est vrai qu'en tant que personne humaine, physique, ils sont morts chacun en leur temps et ils ont été enterrés. Et à l'époque où Jésus en parlait, ce qui restait d'eux, évidemment, n'était plus rien du tout. Mais d'une certaine façon, ils étaient vivants parce que la vie ne se limite pas à la biologie. Après la biologie, après notre vie physiologique, eh bien, il y a un devenir, il y a un avenir. Dès que quelqu'un existe, il existe d'une manière éternelle. Parce que le principe de la vie est définitif, c'est le corps qui meurt. Mais la vie, après, la personne, l'âme, la personnalité, va continuer dans le monde spirituel d'exister. Maintenant, voilà, avec la présence de Dieu ou hors de sa présence. Mais en tout cas, on ne peut pas vivre comme si notre vie se limitait à ce qu'on fait ici sur la terre. Ce serait bien pauvre et bien limité. Donc Jésus a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, acte 3.13 aussi. Acte 3.13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, dit Pierre, et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Donc ici aussi, le Nouveau Testament, encore dans les actes, nous montre que l'Église elle-même avait reçu la leçon, l'information que Dieu peut être appelé aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois que nous, on n'en parle pas souvent comme ça, et même dans nos prières, j'entends pas souvent quelqu'un qui prie en disant « Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais on pourrait, l'Église primitive le faisait. C'est pas nos modes, mais même dans la prière, il y a des coutumes. Vous savez que quelquefois, quelqu'un arrive d'une certaine fédération, on l'écoute prier, des fois je me dis, ah tiens, il vient de telle sorte d'église. parce qu'on a aussi des façons de faire, c'est des coutumes, c'est ni bien, ni moins bien. Ce qui est dommage, c'est quand on croit qu'on doit seulement faire comme on a toujours fait chez nous. Ça c'est dommage, c'est très limitatif. Matthieu 8 encore, versets 11-12. Or, je vous déclare, dit Jésus, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais Jésus lui-même dit que dans le royaume, à table, en ce grand repas, hein, pour ceux qui aiment manger, s'il y a des Alsaciens dans la salle, eh bien, pour ceux qui aiment bien manger, eh bien, dans le royaume des cieux, il y a une table. Hein, et vous savez que nous allons manger avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est des choses qu'on regarde souvent comme seulement, un petit peu, comment je pourrais dire ça, comme si c'était de la littérature ou de la poésie. Mais Jésus n'a pas fait de la poésie. Jésus, quand Jésus nous donne des informations comme ça, c'est qu'elles sont vraies. Moi, en arrivant au ciel, eh bien, peut-être pas le premier jour, mais un jour ou l'autre, j'ai envie de manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, hein, parce qu'ils ont le droit aussi d'aller et venir. Hein. Mais peut-être, puis après on a du temps, on va prendre du temps. Mais une fois avec l'un, une fois avec l'autre, oui, parce que l'éternité, ça dure. Hein. Et donc, je veux prendre le temps de prendre un repas avec... C'est ce que Jésus a dit. Vous savez... Hein, pardon ? Bah, on l'a déjà fait, hein, ici. Alors, il est sot, hein, des fois. Et donc, dans le royaume de Dieu, il y a c'est un monde réel. C'est un monde réel. Ce que je veux souligner, c'est que je crois absolument à un monde réel. Le monde à venir, le paradis dont Jésus nous parle, n'est pas un état désincarné, c'est pas un état vaporeux, c'est pas quelque chose qui sans substance. C'est tout à fait réel, et nous serons dans ce royaume unis avec tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ, ceux de l'ancienne alliance et ceux de la nouvelle. C'est pas l'Église a jamais remplacé Israël, mais l'Église et ce corps magnifique dans lequel il y a tous ceux qui se confient en Dieu et qui seront d'origine juive et d'origine non juive. Tous ensemble, on va manger ensemble. Ça va être extraordinaire. Peut-être Sam y sera aussi. Alors après, on peut parler aussi de Abraham, le père des croyants. Jésus l'a appelé quelquefois le père des croyants. Pourquoi on l'appelle le père des croyants? Matthieu 3, 8, 9. Jean-Baptiste dit à tous ceux qui venaient vers lui pour se faire baptiser, il leur dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est-à-dire que ce que Jean-Baptiste soulignait, c'est que ce n'était pas une question de filiation, j'allais dire génétique, ce n'était pas une question de filiation physique qui fait l'identité des croyants, mais c'est ce qui vient du cœur. Il disait à ses contemporains, ne mettez pas seulement votre confiance dans le fait que vous êtes de la descendance d'Abraham. Hein, il disait Abraham notre père. Dans l'Ancien Testament aussi, plusieurs prophètes ont dénoncé ça. Jésus dira la même chose en disant, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui au fond ne sont pas changés, ne sont pas gagnés aux réalités qu'ils semblent professer. Et Jean-Baptiste, avec beaucoup de force, leur dit, mais c'est Dieu qui crée la vie, c'est Dieu dans sa grâce qui suscite toutes choses. Et si Dieu le voulait d'une pierre, il peut susciter des enfants à Abraham. C'est-à-dire, vous n'avez pas de mérite dans le fait d'être des enfants d'Abraham, parce que vous l'êtes de votre grand-papa, qu'il était de son grand-papa, et puis voilà, on remonte jusqu'où comme ça. Ce qui est important, c'est de l'être dans votre cœur. Hein. Encore une dernière référence, mais ce n'est pas la peine de la lire. Le sein d'Abraham, c'est-à-dire l'endroit où ceux qui avaient été agréables à Dieu allaient après leur mort, étaient appelés donc le sein d'Abraham, c'est-à-dire c'est ce qui permet d'identifier Abraham comme étant le père des croyants. Mais j'aimerais en venir vraiment à l'histoire d'Abraham On verra seulement ce soir, si on voulait parler de tous les épisodes qu'il y a d'Abraham, il faut faire toute une série sur lui, mais je voudrais juste piquer comme ça quelques points. D'abord son départ, hein, lorsqu'il est parti de Charan sur l'appel de Dieu pour aller en Canaan dans Genèse 12, on peut lire les versets 1 à 5, voilà, merci. L'Éternel dit, à ce moment-là il s'appelait Abraham. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était déjà âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà un départ qui est un départ courageux. Abraham était déjà parti avec son père, ils étaient partis déjà de beaucoup plus loin, ils étaient partis de la Chaldée, ils étaient partis de Ur, et pour aller en Canaan. Mais entre-temps, le long du voyage, ils sont arrivés à Charan, ils se sont installés à Charan, et finalement, ils sont restés là pendant assez longtemps, et où ils ont prospéré. Ils ont gagné là beaucoup d'argent. Quand Abraham est parti ensuite de Charan, ils avaient des serviteurs, ils avaient des troupeaux, ils avaient un bien considérable. Hein. Ce sont des gens qui prospéraient. Ils étaient certainement travailleurs, mais ils avaient aussi de la jugeote. Ils savaient faire fructifier leurs affaires. Et puis ils avaient la bénédiction de Dieu. Et un jour, Dieu lui a dit, quitte tout ça. Et c'est difficile. Il y a toujours un moment où quelque part Dieu va nous demander de quitter quelque chose. C'est pas forcément un départ géographique, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait rompre avec notre famille, par exemple. Mais ça peut aussi arriver, et il faut peut-être penser qu'un jour, quelqu'un d'entre nous peut être appelé à partir comme missionnaire, je sais pas, on a parlé de la Chine par exemple, c'est pas mal la Chine, puis c'est assez grand, et puis il y a beaucoup de monde là-bas, vous pouvez trouver des relations facilement, hein, c'est pas un endroit désertique où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, hein, c'est un endroit bien, et beaucoup de gens peuvent être appelés, mais on peut aussi être appelé à sortir d'une situation où on est bien. Une situation où on est valorisé, une situation où on est tranquille, une situation par exemple professionnelle où Dieu dit quitte et fais autre chose. Quitte. Alors on dit mais oui, mais ça va marcher comment? Mais Abraham ne savait pas comment ça allait marcher, il connaissait pas le chemin, il n'avait pas une carte, il n'a pas pu consulter Mappy pour savoir par où il allait passer et combien coûtaient les péages jusqu'à là-bas. Il n'avait aucune idée de comment il s'installerait, comment il serait reçu, comment étaient faits les peuples chez qui il arriverait, s'il serait bien reçu ou pas, avec des richesses. Quelque part c'est une sécurité, mais d'un autre côté ça suscite de la convoitise. Alors, bon, il y avait toutes ces choses-là, et Abraham a cru en Dieu, et il a accepté de faire suffisamment confiance à Dieu pour partir. Nous, quand nous sommes partis avec Brigitte et les enfants en Afrique, bon, c'était évident, c'était un départ géographique, tout ça, mais on savait quand même où on allait, on avait quand même des cartes, et puis on savait qu'on trouverait des gens, etc. C'était pas aussi hasardeux, héroïque que ce qu'a fait Abraham. Mais la confiance qu'on a en Dieu doit se valoriser, doit pas se valoriser, mais se concrétiser par quelquefois des pas qui sont dans l'inconnu. Quand Papa Jean, le Dieu, lui a demandé d'arrêter son travail, c'est aussi comme quitter une zone de confort. C'est quitter une zone de sécurité, c'est quitter quelque chose qu'on connaît, dont on est sûr, qui marche, et après ça va marcher comment? Est-ce que c'est sûr? Mais ce qui nous rassure souvent sur la terre, ce sont des sécurités qui ne sont pas toujours vraies. La vraie sécurité, c'est la sécurité qu'on a en Dieu. Il vaut mieux être dans l'inconnu avec Dieu que dans le connu sans lui. Et quelquefois, quitter, c'est la seule chose raisonnable qu'on puisse faire quand Dieu nous demande quelque chose. Donc ils sont partis. Et à peine arrivés sur place, eh bien, effectivement, des difficultés sont survenues. On peut lire dans Genèse 13, 8 à 17, parce que comme ils avaient acquis beaucoup, beaucoup de biens, et Abraham et son neveu Lot, que Abraham avait pris sous sa coupe, il l'avait un peu adopté puisqu'il était orphelin. Donc Abraham et Lot avaient des troupeaux considérables. Alors leurs troupeaux et leurs bergers ont commencé à se disputer. Abraham dit à Lot, il ne faut pas qu'il y ait, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères, nous n'allons pas nous disputer. On sait que c'est comme nous dans l'église entre frères et sœurs. Voilà, on est frères. Personne ne se dispute jamais, ça serait pas concevable. Alors, Abraham dit, tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il regarda, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à la ville de Tsoar, c'était comme un jardin d'Éden. C'était comme le pays d'Égyptiens. Alors Lot a choisi pour lui la meilleure part du gâteau. Il a pris toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Encore un petit peu. Abraham habita dans le pays de Canaan, c'est-à-dire plus dans les montagnes, dans les régions plus difficiles. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants. C'était de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit ensuite à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Voyez, on est là face à une image qui, je crois, est extrêmement simple, transparente et qui est bonne à rappeler souvent. Voilà Abraham et Lot, deux personnes qui également sont des gens qui craignent Dieu. Tous les deux, ils adorent Dieu, ils sont pénétrés, conscients de la grandeur de Dieu et ils veulent servir Dieu. Mais les choses matérielles sont là, il faut vivre, c'est normal. Et quand Abraham a vu qu'il pourrait y avoir entre eux des disputes, il a fait quelque chose de très sage, il s'est dit, donnons-nous chacun des limites. Et le vieux, avec beaucoup de respect, le vieux Abraham a donné à ce petit jeune de Lot, à son petit neveu, il lui a donné l'opportunité de choisir. Moi je pense que si Lot avait été un tout petit peu respectueux dans sa personne, il aurait refusé de choisir. Il aurait dit, papa Abraham, c'est toi qui m'as recueilli, c'est toi qui es comme mon père adoptif. Tout ce que j'ai en étant ici, c'est grâce à toi. Je t'ai suivi et j'ai été gardé, j'ai été protégé, j'ai été sécurisé. Aujourd'hui, je suis enrichi. Aujourd'hui, on est bien, on est dans l'opulence. C'est pas moi qui vais choisir. Choisis et je prendrai ce que tu veux me donner. Ça aurait été la vraie part. Ou alors un bon marché. Ou peut-être qu'il aurait pu dire, écoute, bon, il y a des endroits qui sont plus favorables, d'autres qui sont moins favorables. coupons la poire en deux. Tu prends la moitié de ce qui est bon et la moitié de ce qui est moins bon. Je prends l'autre moitié. Comme ça, on fait un partage équitable. Mais l'autre réagit avec un égoïsme, un aplomb vraiment, vraiment stupéfiant. Il a regardé ce qui était le meilleur. Il dit, ben je prends ce qui est le meilleur. Ça, c'est quand même marrant, hein? Vous avez des gens comme ça, ils n'ont pas appris que quand on leur tend quelque chose, on ne prend pas dans le gâteau, on ne prend pas la plus grosse part. Hein? Comment vous faites quand on vous tend un gâteau? Hein? Vous êtes poli, prenez la petite. Hein? Il y a deux gars comme ça qui allaient prendre un morceau de gâteau, il y avait une grosse part et une petite. Alors le premier qui s'est servi, il a pris la grosse. L'autre était fâché, il lui dit, toi t'es mal poli. Mais l'autre a dit, pourquoi je suis mal poli? Il dit, parce que quand on est poli et qu'on se sert en premier, on prend la petite part. Hein? Et il dit, et toi, tu aurais fait quoi? Ben, l'autre, il a dit, ben moi, je suis poli. Si je m'étais servi en premier, ben, j'aurais pris la petite part. Ben, l'autre lui dit, ben il me serait resté la grosse, tu vois, ça revient au même. Donc ça, c'est une politesse. C'est une politesse comprise encore d'une façon intéressée, quoi, intéressée. Et bien l'autre, il était comme ça. Lui, quand on lui tendait le gâteau, si la grosse part n'était pas devant, il tournait d'abord l'assiette pour prendre la grosse. Et alors, il a pris le meilleur. Mais voyez, des choix faits comme ça, des petites choses comme ça, sont démonstratives de quelque chose qui, à l'intérieur, est déjà... Il y a quelque chose qui est corrompu déjà. Il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas juste. Il s'est séparé. Et le texte montre bien que déjà, il était en train de se rapprocher de ce qui plus tard serait sa perte. Il a pris toute la plaine là où c'était le meilleur, là où il y a les villes de Sodome et de Gomorre. Là où les gens étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Tous les hommes sont pécheurs, mais quand la Bible dit une ville de méchants pécheurs, grands pécheurs devant l'Éternel, c'est vraiment mauvais, hein? Mais Abraham, lui, savait qu'on ne s'approche pas d'endroits comme ça. On fuit des gens comme ça. Mais Lot, attiré par la convoitise, attiré par le matérialisme, eh bien, s'est complu dans cette situation. Ce sera plus tard, ce sera sa perte. Vous voyez, il y a dans le choix que Lot a fait, on pourrait dire quelque part, à un premier degré, on peut dire qu'il n'y a pas de péché. Parce que Abraham lui a donné réellement le choix. Donc, puisqu'il avait le choix, il l'a pris. Si on lui avait reproché, on lui dirait, ben, alors, il aurait pu dire, ben quoi, il me l'a donné, je l'ai pris. Alors c'est vrai qu'il y a des péchés qui sont manifestes, des péchés qui sont directement en surface et qui sont immédiatement, dans leur premier degré, immédiatement une transgression d'un commandement ou une transgression d'une morale. Mais il y en a qui, comme dit Paul, qui ne se révèlent que par la suite. Et là, Lot a montré que le fond de son cœur était égoïste, matérialiste, et que son amour des choses matérielles lui faisait perdre la crainte de ce qui est mauvais devant Dieu. Et je crois que ces exemples nous sont donnés dans la Genèse, à nous et à tous ceux qui ont lu la Bible depuis toujours, pour que nous fassions attention. L'amour des choses matérielles peut nous rendre égoïstes, ça peut nous rendre insensibles aux besoins des autres, ça peut nous rendre insensibles à la crainte de Dieu, et il nous faut revenir à ces choses-là et faire bien attention pour ne pas être déroutés. Abraham, lui, semblait avoir perdu dans ce partage. On pourrait dire qu'il s'était un peu fait rouler dans la farine, hein? Mais une fois que le partage a été fait, c'est curieux, mais on ne voit pas Dieu venir vers Lot pour lui dire, hey Lot, super, t'as touché un gros lot. Il ne semble pas que Dieu parlait à Lot. Mais Dieu est venu parler avec Abraham. Il dit, Abraham, oublie cette histoire de partage bidon. Regarde autour de toi. Tu n'as pas la moitié de quoi que ce soit. Mais moi, je t'ai donné le tout. C'est toi qui as le tout. Regarde au nord et au midi, à l'orient, à l'occident. Regarde partout. Tout est à toi. Bien sûr, des esprits rationalistes pourraient dire, oui, en fait, Dieu lui a dit qu'il l'avait, mais qu'il l'avait... c'est un peu virtuel, quoi, hein ? Hein, ça sera plus tard, des générations, de je sais... Plus tard, aujourd'hui, quel titre de propriété il avait? Bien sûr, Abraham n'avait pas de titre de propriété. Mais qu'est-ce que ça lui faisait d'en avoir ou de ne pas en avoir? Si Dieu lui disait que c'était chez lui, si Dieu lui a dit que c'est chez lui, c'est chez lui. Je me souviens d'un évangéliste qui était allé une fois dans un pays pour, je ne sais plus, c'était en Asie. Et puis, il avait un visa très court. Et au bout d'un temps... Et au bout d'un temps, son visa était épuisé, il devait partir, mais la campagne d'évangélisation marchait tellement fort qu'il voulait continuer. Donc il est resté, et il était en situation un petit peu... Voilà. Alors la police est venue, et la police lui a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas en règle. Alors il leur a dit, écoutez, Dieu a tout créé, tout appartient à Dieu. Donc ce pays appartient aussi à Dieu. Et moi, je suis fils de Dieu, donc cet endroit m'appartient aussi, donc je reste. Vous voyez, il n'avait pas de titre, et les autres lui ont dit, et il a tellement répété ça qu'à la fin ils étaient saoulés, ils l'ont laissé, il a fini sa carrière. Et alors, bon, je ne dis pas, il ne faut pas toujours faire comme ça, Mais vous avez des gens, vous savez, les titres de propriété, des fois c'est illusoire. Moi je suis des fois frappé de voir des gens qui se battent pour continuer de gagner de l'argent, alors qu'ils seraient incapables, dans toute leur vie, même s'ils vivaient 200 ans, ils seraient incapables de dépenser tout ce qu'ils ont. Hein? Et vous avez des gens qui ont comme ça des millions, si on les mettait au défi de dépenser ce qu'ils ont, ils ne pourraient pas, s'il faut manger par exemple, c'est pas possible, hein? C'est pas possible, ils font des efforts, mais ils pourraient pas. Et s'ils devaient acheter, s'ils devaient faire tout, ils pourraient pas. À la fin, ils en restent. Et ils se bagarrent pour continuer d'en accumuler encore. Mais est-ce que vraiment ces choses leur appartiennent? Ça leur appartient comment? Ça leur appartient parce que c'est sur des comptes, parce que c'est... Mais finalement, c'est virtuel, puisqu'ils pourront jamais l'utiliser. C'est idiot. Ne faites jamais ça. Et Abraham n'était pas déçu. Abraham n'était pas déçu de ce qu'il ne possédait pas le titre de propriété de Canaan. Ça, c'était pas son problème. Nous savons aussi, parce que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre, comme Abraham, nous savons que nous n'avons pas d'état de titre de propriété, etc. Mais nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous avons reçu bien plus. Et il faut qu'on fasse quelquefois des efforts pour ne pas être impressionné par ces questions matérielles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, on s'en occupe, et il faut que Dieu nous donne de la sagesse pour nous en occuper comme il faut, mais il faut que nous sachions bien où sont les vraies réalités. La réalité, c'est le titre de propriété, notre citoyenneté que nous avons dans les cieux, qui vaut beaucoup mieux que toute autre chose ici. Abraham possédait tout, Lot croyait avoir tout possédé, c'est lui qui était possédé par le matérialisme. Il croyait possédé, c'est lui qui était possédé par le matériel. Il croyait dominer, il croyait avoir reçu le pactole. En fait, il s'était laissé, par sa décision, il s'était laissé déjà corrompre. Le ver était dans la pomme. Encore un autre épisode, où il y a eu une guerre, et où on voit qu'Abraham, curieusement, tout d'un coup, se révèle être une espèce de chef de guerre. Jusque-là, on le voyait nomade, gardant des troupeaux. Mais Dieu peut nous donner des capacités différentes, nouvelles. Parce qu'il y a eu une guerre entre des diverses coalitions de ces petits rois qu'il y avait à cette époque. Et les rois de Sodome et de Gomorre sont partis en guerre contre un certain roi qui s'appelait Kedorlaomer. Bon, c'est pas un nom très facile, pas très courant. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui veulent appeler leurs petits-fils, leurs enfants Kedorlaomer, mais c'est bon, c'est un peu dur à porter. Hein. Et donc, les rois de Sodome et de Gomorre ont cru qu'ils pouvaient s'affranchir de Kedorlaomer, et ils sont partis en guerre contre lui, mais il était plus fort qu'eux, et donc ils ont dû s'enfuir, et ils sont tombés dans des puits de bitume, de goudron, et donc le Kedorlaomer a tout raflé, les biens, tout ça, et donc il a aussi embarqué tous les gens qui étaient à Sodome, et Lot, qui maintenant était là, Lot s'est trouvé embarqué avec ses méchants. Quand Abraham a su cela, alors il est parti avec une poignée de gens, parce que quelques centaines de personnes contre cette troupe, c'était impossible. Et Abraham a pu reprendre le butin, délivrer tout le monde, il a délivré Lot. Et moi je me dis que Lot, ce jour-là, aurait dû comprendre que c'était comme de la part de Dieu, comme un signal d'alarme. Bien sûr, son vieux tonton était venu à sa rescousse. Mais tonton ne viendra pas toujours à ta rescousse. Il n'y aura pas toujours un tonton, une tantine, une grand-maman, quelqu'un qui pourra vivre ta foi à ta place. Certaines personnes n'ont pas de foi. Ils ont la foi de leur papa, la foi de la grand-mère, ils ont la foi de leur mari, de leur femme, ils ont la foi d'un tel, et ils vivent par procuration, ils vivent une foi par procuration, ils vivent au bénéfice de la foi des autres. Il y a des enfants de chrétiens comme ça, qui vivent de la foi de leurs parents. Et jusqu'à ce que Dieu les mette un jour dans l'obligation de matérialiser leur foi, et alors tout d'un coup ils découvrent qu'ils ne savent pas prier. Ils découvrent qu'ils ne savent pas comment on se bagarre spirituellement. Ils découvrent qu'ils ne savent pas comment on se débarrasse d'un ennemi. Ils découvrent qu'ils ne savent pas comment on fait pour obtenir quand on manque de quelque chose. Parce que c'est toujours papa et maman qui l'ont fait. Parce que c'est toujours les autres qui l'ont fait. Parce que c'est tonton. Ou pour certains, des fois, c'est le pasteur. Il y a un problème. Pasteur, pasteur. Oh, pasteur. Oui, bon. Mais est-ce que tu as mobilisé ta foi? Est-ce que c'est ta foi à toi? Est-ce que tu as foi dans le Dieu de la prière? Ou est-ce que tu as foi dans la prière de tes pasteurs qui prient Dieu qui a la... Toi, tu as la foi? Est-ce que tu es comme Lot? Lot, il comptait toujours sur Abraham. Et tant qu'Abraham a pu, Abraham l'a délivré. Mais ce jour-là, Lot aurait dû se dire, mais qu'est-ce que je faisais dans cette histoire? Comment ça se fait que je me suis retrouvé embarqué, comme ça, pris au milieu du butin? Si Abraham n'était pas intervenu, Lot aurait été vendu en esclavage quelque part, ou peut-être il serait mort, ou quelque chose comme ça. Il aurait été perdu dans l'inconnu, comme ça. Il aurait dû se dire, mais comment ça se fait que j'ai été embarqué dans ça? Il faut que je change, Mais qu'est-ce que Lot a fait? D'ailleurs, on ne parle même plus de lui. Simplement, on nous dit qu'il a été délivré. Et il s'est vite dépêché de retourner dans sa petite villa au milieu de Sodome. Il a vite remis ses affaires, il a remis ses bibelots sur les étagères. Il a dit, ah, la vie reprend son cours. Mais c'est bête de vivre des galères comme ça et de ne pas en tirer les leçons. C'est bête de manquer, de tomber dans le trou et de ne pas se demander pourquoi on était là. Les leçons, les difficultés qu'on vit, quelquefois, je dis pas toujours, c'est pas une généralisation, mais quelquefois doivent nous apprendre quelque chose. C'est comme quand Samson a failli mourir à Gaza, qu'il s'en est sorti en arrachant les portes. Mais Dieu lui dit, mais tu faisais quoi là? Oh, j'étais allé voir une amie. Ah oui. Mais Samson ne s'est pas posé la question, il a dit « je m'en sors toujours ». Lot a dit « je m'en sors toujours ». Oui, mais plus tard, quand le châtiment est tombé sur Sodome et Gomorre, eh bien Lot, il a sauvé juste sa vie, mais ses pensées, sa vie spirituelle sont restées là-bas. Ses convictions, sa crainte de Dieu sont restées là-bas. Qu'est-ce qu'il était, Lot le juste? Mais qu'est-ce qui restait de Lot le juste à la fin? Sa femme même n'a pas tenu le coup. Elle convoitait ce qu'elle laissait là-bas. Au moment de quand les anges leur ont dit « Fuyez, fuyez, ne regardez pas en arrière ». C'est-à-dire, ne regardez pas en arrière, ça ne veut pas simplement dire que dans l'imagerie, on pense que c'est seulement le fait de jeter un coup d'œil. Comme si le fait de jeter un coup d'œil, au moment où il jette un coup d'œil, vous voyez une espèce de souffle, elle a été... tétanisé. C'est pas ça. Regarder en arrière, regarder en arrière, ça veut dire retourner, ça veut dire rechercher. La femme de Lot est sortie, et puis elle s'est dit, ma petite cassette où il y a mes pièces, j'arrive, elle est retournée chercher sa cassette, elle est partie. Et puis elle m'a dit, mon manteau en vison, je ne voudrais pas le laisser celui-là. Elle est retournée le chercher, puis après elle est retournée, puis elle est retournée, puis elle... et puis à la fin, elle ne pouvait plus s'en sortir. Et la cendre, le soufre de feu sont tombés, elle a été pétrifiée là-dedans. Lot a sauvé deux filles qui étaient dans un état désastreux, leur pensée, leur système de pensée, leur conviction était celle de Sodome. Des filles qui ont été capables de coucher avec leur père, de le saouler pour coucher avec lui, pour avoir une descendance. Et après, ils vivaient dans une caverne, des gens de lumière. Ils étaient réfugiés dans une caverne, ils ressemblaient à des cloportes maintenant. Ils n'étaient plus rien, des bêtes de ténèbres. Il ne leur restait rien. Abraham était sur la montagne. Et après chacun de ces épisodes, Dieu vient parler à Abraham. Dieu le réconforte. Dieu lui rappelle ses promesses. Dieu lui redonne, lui redit ce qu'il lui a déjà promis. Et il affine la promesse. Dieu l'aide à aller de l'avant. Mais comment Lot aurait pu entendre Dieu lui parler? C'est impossible. Il n'aurait rien entendu. On voit en Genèse 14, 17, après cette victoire, après qu'Abraham soit revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, donc Abraham venait de libérer en même temps que Lot, le roi de Sodome, avec reconnaissance, est sorti à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, le roi de Salem, une petite ville à côté, fit apporter du pain et du vin. Lui, Melchisédek, était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout le butin qu'il avait fait sur ses ennemis. Le roi de Sodome, maintenant c'est plus Melchisédek, c'est de nouveau le roi de Sodome. Ça va, vous suivez, Ben oui, suivez quand même. Alors, donc, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, c'est-à-dire rends-moi les personnes que j'ai libérées et prends pour toi les richesses. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main devant Dieu. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, j'assure solennellement devant l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Vous voyez, Abraham lui répond au roi de Sodome avec beaucoup de fermeté. C'est comme une gifle qu'il lui a donnée, ça c'est en public. Il lui a dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Vous voyez, Abraham n'aurait jamais voulu tirer un profit quelconque de quelque chose qui vienne de Sodome. Ouais, quelle différence avec Lot. Avec Lot qui s'était d'abord rapproché, il avait d'abord mis ses tentes jusqu'à la porte, mais dans l'épisode suivant, tiens, il n'est plus dans une tente, il est dedans, il est installé. Et après, on voit que son cœur était gagné à la pensée de Sodome. Mais après toutes ces choses, Abraham, qui dans cet épisode aurait eu le droit, après tout, c'est lui qui a risqué sa vie pour aller chercher toutes ces choses, il aurait pu en tirer un profit, il aurait pu dire au moins, c'est pour le risque que j'ai pris. Mais Abraham a dit, alors ça, jamais je ne voudrais qu'on puisse dire que j'ai gagné quelque chose qui vienne de chez toi. Garde ce qui vient de chez toi, garde tout. Et Abraham a montré son intégrité dans ce passage. Enfin, un dernier passage, on va faire dire ça rapidement. C'est l'épisode qu'on connaît le mieux sur Abraham. C'est l'épisode où Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. C'est quelque chose qui est un défi à notre connaissance de Dieu. Parce que ce que Dieu lui demande, il lui dit, une fois qu'Abraham a eu un fils qui s'appelait Isaac, il lui dit, Dieu lui demande un jour, sacrifie-le, offre-le en holocauste. Et c'est quelque chose qui est totalement, ça nous paraît d'abord irrationnel, pourquoi Dieu donnerait à quelqu'un un enfant de manière miraculeuse comme ça. Rappelons que lui, il avait 100 ans et que sa femme en avait 90 quand elle l'a eu, ce qui est quand même un miracle. Donc pour toutes les sœurs qui ont passé 50, ne vous désespérez pas, vous pouvez encore avoir plusieurs enfants. Hein. Là, je souffle sur quelques vieilles angoisses qui reviennent. Et donc Abraham était tellement... Cet enfant, c'était la joie de sa vie. Et un jour, Dieu lui demande d'y renoncer. Non seulement d'y renoncer, mais d'y renoncer lui-même. Offre-le, va sur la montagne, je te montrerai à Morija, et offre-le en holocauste. C'est un défi. On dit, mais nous qui connaissons Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu de paix, c'est quand même difficile. Alors, on se console un petit peu, entre guillemets, par le fait qu'on sait qu'à la fin, Dieu ne l'a pas fait. Alors on dit, oui, mais d'un autre côté, il nous faut nous rappeler que Dieu ne tente jamais personne. C'est-à-dire que si Dieu ne peut pas demander quelque chose qui, en soi, serait quelque chose de mauvais, sinon Dieu proposerait de faire quelque chose de mal. Dieu ne peut pas proposer de faire quelque chose de mal. La vérité, c'est que chaque vie lui appartient. La vérité, c'est que nos vies lui appartiennent. La vérité, c'est qu'il n'y a rien dans ce monde qui n'appartienne pas à Dieu. Et lorsque Dieu, si Dieu veut revendiquer quoi que ce soit dans ce monde, il a toujours juste. Il a raison. La vie d'Abraham lui appartient, la vie d'Isaac lui appartient, la vie de chacun, nos vies lui appartiennent. Combien souvent nous disons, ma vie, mon corps, ma santé, mais quelle vie? Ta vie ne t'appartient pas. Mon corps, mais ton corps ne t'appartient pas. Ma santé, mais attends, c'est Dieu qui donne la santé. Nous n'avons rien qui nous appartienne, rien qui ne viendrait de nous, rien qui est à nous. Tout ce que nous l'avons parce que Dieu l'a fait, parce que Dieu nous l'a donné, ou nous l'a confié, nous a demandé de le gérer. Vous savez le fameux mouvement féministe là, « Mon corps m'appartient », c'est un slogan de mensonge. C'est un slogan de mensonge, je fais de mon corps ce que je veux. Non, absolument pas. Ça, c'est un mensonge. C'est comme si le caissier d'une entreprise disait « Je m'occupe de la caisse toute la journée, donc elle est à moi. » Ah bon? Ah ben, tu vas avoir des ennuis, hein? Oui, mais c'est moi qui m'en occupe, je l'ouvre, je le ferme, je passe un coup de chiffon. Ah ben, bien sûr, passe un coup de chiffon, si tu veux. Mais la caisse, c'est pas à toi. Alors toi, c'est pareil, tu l'ouvres, tu la fermes, tu passes un coup de chiffon, mais ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Dieu peut nous demander tout, n'importe quand. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, alors sur le coup, Abraham était content, Dieu lui parle, oui, je suis là. Hein? Mais la suite l'a surpris. Hein? Dieu dit, prends ton fils. Vous voyez comme Dieu précise pour être sûr qu'Abraham ne va pas penser à travers. Hein? Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, là il est sûr, là il a compris. Hein. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Moi ça, je trouve ça extraordinaire. Moi il me semble que j'aurais mis au moins 6 mois avant de me demander si j'avais bien entendu juste ou pas. Hein, j'aurais d'abord combattu contre cette idée. J'aurais dit maintenant cette idée néfaste qui m'est venue dans la tête, ou dans les oreilles peut-être, oui dans les oreilles, maintenant je te chasse au nom de Jésus, tu quittes. Je crois que j'aurais fait ça un bon moment, hein. Le lendemain matin de bonne heure, Abraham était déjà prêt. Et pourquoi il s'est levé de bonne heure? Parce qu'il sait que quand on doit faire quelque chose de difficile, plus on hésite, plus c'est difficile. Et quand il faut faire quelque chose de très difficile, plus vite on le fait, mieux ça vaut. Et Abraham s'est dit, il faut que j'y aille tout de suite. Si j'attends encore un peu, si jamais je discute avec ma femme, c'est cuit. Donc, il s'est décidé et il a dit, je suis sûr qu'il ne lui a pas expliqué. Hein. Non, il dit, on va se promener, c'est tout. Hein. Et donc, ils sont partis, Il se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste. Oui, il va sérieusement, hein, il prépare tout. Et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Vous voyez, si on peut garder le verset sur l'écran deux secondes. Vous voyez, deux choses extraordinaires dans ce passage. La première que je voudrais souligner, c'est « Et nous irons jusque-là pour adorer ». Abraham n'a pas dit « Nous allons pour faire un sacrifice ». Il ne dit pas « Nous allons pour renoncer à quelque chose ». Il ne dit pas « Nous allons pour faire quelque chose de terrible ». Il dit « Nous allons rendre à Dieu le culte qui lui revient ». Et dans sa tête, il sait de quoi il parle. Il sait qu'il parle du sacrifice de son fils. Une deuxième chose, c'est la fin de la ligne. Et il dit « Et nous reviendrons ». Et ça, c'est le plus extraordinaire, c'est qu'Abraham n'a pas dit « Et ensuite, je reviendrai ». Il aurait dû dire « Je reviendrai ». Mais il dit « Nous reviendrons ». Parce que Abraham, à cet instant-là, savait déjà qu'ils reviendraient tous les deux. C'est contradictoire. Il part pour sacrifier son fils et en même temps, il sait déjà qu'il reviendra avec. Parce qu'Abraham, il n'a peut-être pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais il a réfléchi. Et dans sa réflexion, il a dit, Dieu m'a demandé, c'est Dieu qui m'a dit que de ce fils-ci, Isaac, j'aurai une descendance. Et aujourd'hui, Isaac n'a pas de descendance. Mais comme ce n'est pas possible que Dieu mente, ce n'est pas possible que Dieu se trompe, donc Dieu me donnera une descendance d'Isaac. Même si je voyais mourir Isaac aujourd'hui, c'est sûr que Isaac va redevenir vivant pour avoir cette descendance. Vous voyez, Abraham a découvert la résurrection. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'en son temps, jusqu'à Abraham, personne n'est jamais ressuscité des morts. Je ne dis pas que nous, on y croirait facilement, mais on sait que le principe existe. Jésus est ressuscité des morts. Et dans le ministère de Jésus, Jésus a ressuscité plusieurs personnes. Autant d'Élie, il y a eu une résurrection. Autant d'Élisée, il y a eu une résurrection. Mais autant d'Abraham, jusqu'à Abraham, personne dans la Bible et personne dans l'histoire de l'humanité n'est jamais revenu après avoir été mort. Quand ils étaient morts, ils étaient morts. Donc, comment Abraham a-t-il pu penser que quelqu'un pourrait être mort et revenir? C'est la qualité de sa confiance en Dieu qui le lui a démontré. C'est pour ça qu'on appelle Abraham le père des croyants. Parce qu'une telle qualité de foi, c'est quelque chose qui est... Mais c'était extraordinaire! Extraordinaire! Abraham s'est dit, Dieu me donnera une descendance avec Isaac, même si je le sacrifie de ma main, puisqu'il doit avoir une descendance, il reviendra pour l'avoir. Nous allons adorer, je vais offrir à Dieu le sacrifice qu'il demande, mais nous reviendrons. Bah, je trouve ça, mais là, devant une qualité de foi comme ça, on reste muet. Je dis, mais moi j'aimerais avoir une qualité de foi comme ça, même déjà le dixième, ça me changerait. Hein. C'est incroyable, une foi comme ça. Abraham est parti pour adorer. Et voyez, adorer, c'est pas... Vous voyez, souvent, on a réduit le mot adoration seulement au moment où on est en train d'adorer et aux émotions qu'on ressent quand on adore. C'est vrai, mais adorer, c'est plus que ça. Dans l'Ancien Testament, on emploie le terme « adorer » pour dire qu'on croit en Dieu, pour dire qu'on le sert, pour dire qu'on est son serviteur, son témoin, qu'on se conforme, qu'on conforme toute sa vie à ce qu'il est. Un adorateur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui pratique de temps en temps un moment d'adoration, c'est quelqu'un qui, dans sa personne, dans son identité, dans son comportement, dans tout ce qu'il est, c'est quelqu'un qui s'est conformé à la nature de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'obéissance à Dieu. C'est beaucoup plus que simplement un temps de louange. Certaines personnes ne pensent seulement que la louange comme si c'était un temps. De temps en temps, on prend un temps de louange hein, pour louer et adorer Dieu. Et quelquefois, il y a des gens qui ont cherché à ressentir dans ces moments des émotions qui leur font du bien. Tant mieux si vous avez des émotions qui vous font du bien, c'est bien. Mais ce n'est pas le but de l'adoration. Ça, ce n'est pas être un adorateur, c'est quelqu'un qui pratique un moment d'adoration. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'a pas cherché, Jésus ne dit pas que Dieu cherche des gens qui prennent de temps en temps dans la semaine un moment pour faire un petit moment d'adoration, mais Dieu cherche des adorateurs, c'est-à-dire des personnes qui dans leur personne sont des adorateurs, des gens qui croient en Dieu du matin au soir et du soir au matin, du lundi au dimanche, des gens qui dans leur vie, dans leur comportement sont des adorateurs, des gens pour qui ce qui est le plus important dans leur vie est quand même de toute façon soumis à Dieu. C'est pour ça qu'Abraham a pu prendre une décision pareille, parce que même en étant sûr que Isaac ressusciterait, se décider à faire un tel geste, c'est quand même quelque chose c'est énorme. Mais il était capable, parce que ce qu'il avait de plus cher dans sa vie était quand même inférieur à l'amour qu'il avait pour Dieu. C'est ça qui fait de lui un adorateur. Nous aurons tous un moment dans notre vie, et de temps à autre, nous avons des moments où Dieu nous amène sur le mont Morija. Ça ne sera pas pour des choses forcément aussi terribles et aussi extraordinaires, aussi dramatiques que celles-ci, mais Dieu nous mène chacun aux tests qui sont les nôtres. Et Dieu nous expose à des examens qui sont proportionnels à ce que nous faisons. On ne demande pas à un élève qui sort de troisième, on ne lui demande pas de passer un examen de philo. À un élève qui sort du bac, on ne lui demande pas un examen qui correspond à un degré de master. Mais, et Dieu sait ce qu'il peut nous demander. Mais à chaque étape de notre vie, de temps à autre, il nous fait passer un examen. Les étudiants de la formation biblique, ils savent que toutes les 6 semaines, il y a un devoir avec des notes. Ben, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, hein, c'est vrai. Ils n'aiment pas les notes, ils n'aiment pas les devoirs. Et nous n'aimons pas être examinés. Parce que quand on est examiné, d'une part, celui qui nous examine maintenant va être au courant de ce qu'on sait. Mais celui qui est examiné, c'est maintenant aussi lui-même où il en est. Quand Dieu nous fait passer des examens, c'est plus pour que nous on sache où nous on en est que pour lui. Lui sait, il voit, il lit dans les cœurs. Mais Dieu veut que nous sachions où nous en sommes, que nous soyons réalistes. Un jour, je me suis aperçu d'un truc vraiment bizarre que je ne croyais pas qu'il puisse y avoir dans mon cœur. On était à N'Djamena et puis il y avait souvent des voleurs qui venaient dans la cour. Et je craignais les voleurs parce qu'ils sont souvent armés. Et des fois, si quelqu'un s'oppose, ils peuvent encore leur donner un coup avec un poignard. Et tout d'un coup, dans la nuit, j'ai entendu du bruit, il y avait un voleur. Et on avait un étudiant de l'école biblique qui s'est interposé. J'entendais donc les bruits, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'étais inquiet pour mon étudiant, donc je voulais vite me précipiter dehors. Mais j'avais fermé la maison, la porte à clé, et la clé n'était pas sur la porte. Alors je cherchais où était cette clé, je ne trouvais pas la clé, et j'entendais dehors, et j'avais peur de, quand je finirais par trouver ma clé, de sortir et de trouver mon type coupé en morceaux. Alors j'étais inquiet, j'étais affolé, et je voulais gagner du temps. Et tout d'un coup, par la fenêtre, j'ai crié, à l'adresse du voleur, j'ai crié, « Ne bouge plus, si tu bouges, je tire !» Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Et après, j'ai trouvé ma clé, je suis sorti. Et alors, il y avait tous les grands de l'orphelinat qui étaient dans les petites chambres, ils sont tous venus me voir. Le lendemain, ils me disent, tonton Jean-Marie, t'aurais tiré avec quoi? Alors, je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais j'aurais jamais pensé un truc. Même, vous voyez, en le réfléchissant, je n'y aurais pas pensé. Hein? Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est dedans. Et quand on passe un examen, on voit ce qu'il y a dedans. Et ça, je ne savais pas que ça y était. Hein. Mais j'ai passé l'examen, et je n'ai pas trop réussi. Quoi. Mais Dieu nous fait passer des... Ne craignez pas que Dieu vous fasse passer des examens. Ne craignez pas. Dieu veut savoir. Dieu a dit à Abraham, parce qu'Abraham a réussi l'examen, Dieu lui a dit, maintenant je sais. Je sais ce qu'il y a en toi. Et Abraham était réconforté. Il est revenu, ils ont adoré. Vous savez, si vous voulez adorer, mais que dans votre vie ça ne vous coûte rien, vous ne faites pas de l'adoration. Moi, j'aimerais être un grand adorateur. Le truc que je demande à Dieu souvent, c'est ça. J'aimerais être un grand adorateur. Moi, vous savez, les titres, tout ça, Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, ils ont des cartes de visite avec des trucs, machin, spécialistes, internationaux, ils ont des cartes de visite, ils font faire des rallonges, vous voyez, pour pouvoir tout mettre, intergalactique, tout ça. Moi, le seul titre qui m'intéresserait, ça serait qu'un jour Dieu aurait pu me dire que j'ai été un adorateur. Ça, c'est un titre. Et ça m'humilie quand des fois j'aimerais adorer Dieu et que mes pensées sont tellement lourdes et que je n'arrive pas à me décoller de penser de ceci, et de penser même des choses positives. Je suis en train de penser à un cours, je suis en train de penser à un coup de fil que je dois passer à quelqu'un, des choses légitimes. Mais tout d'un coup je m'aperçois, je dis, mais Jean-Marie, mais t'es où? Alors, et je me dis, mais comme des fois c'est lourd, des fois c'est difficile. Et ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui est au-dedans. Si on a de la peine à adorer quand c'est le moment d'adoration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre identité n'est pas gagnée tout entière à l'adoration. Ça veut dire que nous ne sommes pas des Abraham. C'est-à-dire que nous ne sommes pas entièrement devenus dans nos fibres des adorateurs. Il y a des gens, des fois, qui me font envie. J'ai l'impression que dès qu'ils se mettent à louer, adorer, ça y est, ils sont... Vous prenez Sam, dès qu'il prend une guitare, un piano, ça y est, même juste un micro, déjà, lui, il n'a besoin de rien. Il se met à louer, chanter, adorer, vous voyez, il est là. Moi, ça... Des fois, je dis, mais comment je pourrais faire pour faire des progrès? Et c'est ça, les vraies valeurs que Dieu regarde. C'est ça qui fait la définition de ce qu'on est devant Dieu. Le reste, c'est des activités. Bon, les activités, c'est bien, il faut les faire. Mais les activités, ce n'est pas ça qui détermine ce qu'on est. Ce qui détermine ce qu'on est, c'est ce que Dieu voit dedans, au fond du cœur. C'est ça qui monte au ciel. Dieu n'a pas besoin de gens qui font des activités au ciel. Au ciel, il n'a pas besoin d'animateurs. Mais Dieu cherche des adorateurs. Abraham est un exemple fantastique que Dieu nous a donné tout de suite au début de la Bible, dans la Genèse. Il dit, voyez ce qu'est un adorateur. Voyez ce qu'est un adorateur. Quelqu'un qui conforme sa foi et sa confiance en Dieu à tous les aspects de sa vie. Quelqu'un qui joyeusement peut décider immédiatement de renoncer à ce qu'il a de plus cher, parce qu'il aime tellement Dieu. Avec la confiance que Dieu ne peut pas le trahir. Pas des adorateurs fébriles, pas des adorateurs amers, pas des adorateurs qui étalent leurs heures d'adoration, mais un adorateur du cœur. Et c'est là que Dieu veut nous mener. C'est pour ça qu'on voit Abraham avoir une telle facilité à ce que Dieu vienne lui parler. Parce que Dieu n'a pas de peine à parler à un adorateur, c'est facile. Dieu n'a pas de peine à parler à quelqu'un qui peut découvrir qui peut inventer la résurrection. Parce que c'est facile, le chemin dans son cœur est tout tracé. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre désir, hein, notre désir, Seigneur, notre objectif sur cette terre, c'est pas de faire ceci ou cela, ou de réussir dans une chose ou une autre. C'est notre désir le plus cher, c'est de vivre notre relation avec toi, notre relation d'enfant de Dieu, notre relation de disciple, notre relation d'adorateur. Merci Seigneur de nous aider. Je te prie Seigneur pour que chacun d'entre nous ce soir, tous ceux qui se savent en déficit dans leur vie chrétienne à ce sujet. Je te prie, Seigneur, que cette année 2011 soit une année de progrès, une année de découverte, une année où cette dimension dans nos cœurs, dans l'ensemble de notre vie, puisse changer et être transformée, pour que nous puissions être ce que tu aimes. Seigneur notre Dieu, permets-nous, Seigneur, de recevoir dans nos cœurs les révélations dont nous avons besoin. Permets, Seigneur, à ceux qui sont en difficulté avec ça, ceux, peut-être je pense à quelques personnes pour qui simplement gérer leurs pensées est tellement difficile. permet leur Seigneur de soumettre toute pensée à la pensée de Christ, qu'ils puissent arriver à vivre cette relation avec toi. Merci Seigneur notre Dieu. Garde-nous de nous contenter de quoi que ce soit d'autre. Garde-nous de faire des compromis. Garde-nous de perdre, comme Lot, notre vraie fraîcheur avec toi. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, nous t'en prions. Te prie, Seigneur, que cette église puisse toujours rester dans une onction d'adoration. Renouvelle-la, amène-nous plus loin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Pourrions-nous nous lever ensemble? Peut-être gardez-nous, restez recueillis. Est-ce que mon frère peut venir au piano? Le temps est passé, mais il nous a été parlé de foi ce soir. Fermez vos yeux un instant. Il a été parlé de foi. Dieu nous a parlé de foi tout à l'heure par la parole qu'il nous a adressée, mais également par la parole prophétique. Et cette foi, nous voulons l'exercer. Pendant que mon frère joue simplement, je suis celui qui te guérit, Henri. Je sais que beaucoup de personnes viennent le mardi également pour la guérison. Et Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Et nous voulons vraiment nous attendre à lui. Pourrais-je demander aux malades de venir rapidement, aux frères de venir également? Ce qui va compter, ce n'est pas la longueur de la prière. C'est que vous vous attendiez à recevoir. Vous faites un acte de foi là. Vous venez et on va prier courtement pour vous, mais en nous attendant au Seigneur. Si quelqu'un doit partir, vous pouvez quitter ce lieu, mais s'il vous plaît, silencieusement. Nous croyons que c'est encore un moment saint. Chantons « Je suis celui ». Pendant ce temps, eh bien approchez-vous, vous qui êtes malade et mes frères responsables, approchez-vous, nous allons prier. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, ton Sauveur.